nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Le repas est prêt, la table est mise. Ils entendent la porte qui s'ouvre. Elle dit, tu dois être un de mes enfants. Et elle sort de la cuisine. Il est surpris. Aimerait savoir ce que sont devenus ses enfants. Il entend Sylvie dire « Bonsoir Amélie, tu es sortie comme ça ?
Oui, pourquoi ?»
Ta mère lui dit « Parce que tu as l'air d'une femme entretenue. » Ta fille lui dit « Mais non, et puis c'est comme ça que même ma Henri. » La mère lui dit « Va dans ta chambre pour te changer, le repas est prêt. Armand est allé se reposer dans sa chambre. » Et j'ai une personne pour m'aider, pour le travail. Ta fille lui dit, tu vois maman, tu t'y mets toi aussi. Tu vas être plus libre maintenant et chercher du travail. La mère lui dit, j'ai pris quelqu'un, c'est pour avoir moins de travail, pas pour en avoir un autre. La fille lui dit, et qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? La mère lui dit, ne t'en fais pas, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Et puis si je veux, j'ai bien le droit de prendre un peu de bon temps, moi aussi. Ça te paraît normal? À vous, à toi, à vous, de sortir. Et moi alors? Sa fille lui dit, bon, ça va, mais il faut un manteau, des chaussures, et l'on n'a rien. La mère lui dit, au lieu de m'envoyer au travail, si toi tu y allais ?» La fille lui dit, « Mais tu sais très bien qu'il n'y en a pas. Eh bien, pour moi non plus. Mais tu peux faire des ménages. Toi aussi. » Elle lui dit, « Tu me vois faire des ménages ? Tu enverrais ta fille faire des ménages ?» La mère lui dit, « Et toi, tu envoies bien ta mère faire des ménages, alors ?» La fille lui dit, « Mais moi, c'est pas la même chose, j'ai des diplômes. » Sa mère lui dit, « Et moi, alors ?»« Oui, mais tu as arrêté de travailler depuis longtemps. » Sa mère lui dit, « Et toi, tu n'as jamais travaillé. » La fille lui dit, « Mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis obligé, c'est de choisir. Tu comprends ? Mon ami ne voudrait pas que je fasse n'importe quoi. » Sa mère lui dit, « Ça ne m'empêche pas de transformer ma fille en femme entretenue. Quelle tenue tu as ?» Sa fille lui dit, « Tu n'y connais rien, c'est la mode. » Sa mère lui dit, « De montrer les fesses et d'avoir une robe moulante rouge vive. » Sa fille lui dit, « C'est le grand chic. » La mère lui dit, « Grand chic ou non, va dans ta chambre te changer, nous mangeons. » Denis, qui a tout entendu derrière la porte, se dit que sa fille doit être plus surveillée. Il était à deux doigts d'intervenir, mais à la dernière minute, il s'est souvenu ce qu'il était devenu. La porte s'ouvre. Sylvie entre et dit, « J'ai eu une petite altercation avec ma fille. Elle s'est préparée sans manger. La jeunesse n'est pas facile. » Une demi-heure plus tard, ils sont à table dans le séjour. Sylvie, Amélie et Armand. C'est Denis qui sert à table. Amélie le regarde. C'est une grande fille rousse dans les 20 ans. Elle a mis une robe collante noire très courte. Elle dit à Denis, « C'est étrange, il me semble vous connaître. » Denis lui dit, « Ça m'étonnerait, mademoiselle, je suis à Paris que depuis peu. » Elle lui dit, oh, « Je sais, vous ressemblez à ces mannequins que l'on voit dans les magasins. » Deux heures après, une fois que la vaisselle a été faite, Denis retourne dans le cellier pour s'allonger. Et se dit, tout ça ne me dit pas pourquoi j'ai changé de physique et comment j'ai ressuscité. Si ma famille ne le sait pas, comment pourrais-je savoir? En tout cas, la vie continue pour eux. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir sans rien? On m'a tout pris, même ma famille. Thank you. tout à coup, il entend des pas. La porte qui s'est ouverte, il se lève. Apparaît un jeune homme, grand, maigre, le visage très pâle, les cheveux longs, châtains, habillé d'un vieux blouson de cuir noir et d'un jean. Denis reconnaît son fils. Le jeune homme lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?» Denis lui dit « Je suis un homme à tout faire de votre mère, que votre mère a embauché à l'essai pour une semaine. Elle m'a habité, elle m'a dit d'habiter ici. » Le jeune homme lui dit « C'est bien de ma mère, ça, de prendre les gens pour des domestiques et de les faire coucher ici. » Denis lui dit « C'est moi qui lui ai proposé. » Martin lui dit « Elle a dû être contente de vous avoir. » Martin regarde autour de lui et va dans un renfoncement de la pièce. Tire une pierre et en sort un sachet qu'il met dans sa poche et dit « C'est à moi. » Denis lui dit « C'est votre coin que j'ai pris. » Martin s'assoit sur le rebord du lit. Prend un paquet de cigarettes, le tend à Denis qui fait long de la tête. Lui s'en sort une et dit « C'est pas vraiment mon coin, mais je mets là des choses que j'aime pas, que j'aime garder secrètes. » Denis lui dit « Comme de la drogue. » Martin furieux lui dit « Et alors ? Vous allez me faire de la morale ?» Denis va s'asseoir sur une caisse en bois, retourner et lui dit « Non, tu es libre de faire ce qui te plaît. » Martin lui dit « Surtout que ça nuit à personne. » Denis lui dit « Ça, c'est pas sûr que ça nuise à personne. » « À qui, par exemple ?» Denis lui dit « Aux gens qui t'aiment et qui ont de la peine de te voir te dégrader. » Martin lui dit « Je connais personne qui ont de la peine à cause de moi. » « Et ta mère ?» Martin hausse les épaules et lui dit « Ma mère, elle est trop occupée avec son mec. » Denis lui dit « Ton père ?» Mon père, il est mort, le vrai, pas l'autre. Et s'il n'était pas mort, tu t'arrêterais pour lui faire plaisir ? Martin lui dit, ce n'est pas vrai. Et puis, ce n'est pas sûr. Je le voyais presque jamais. Alors, Denis lui dit, mais peut-être que maintenant, il te voit. Martin lui dit, tu crois à la réincarnation, toi? Denis lui dit, je ne peux pas faire autrement. Comment? Parce que je suis réincarné. Martin lui demande, comment? Denis lui dit, un jour, je me suis réveillé. On n'a plus le même physique et pourtant on est les mêmes. Puis vous apprenez que vous êtes mort. Martin lui dit, ce sont des folies tout ça, des contes. Denis lui dit, non, pas du tout. Martin lui dit, n'êtes pas un peu fêlé? Denis lui dit, non, je suis très bien. Mais toi, tu devrais, c'est te désintoxiquer, ça te ferait du bien. Martin se lève et lui dit, non, je vais dans ma chambre dormir un peu. Denis lui demande « Pourquoi est-ce que tu te drogues ?» Martin lui dit ben « C'est pour sortir de cette chienne de vie. » Et puis, j'ai encore son truc. Moi, c'est ça. Toi, c'était l'histoire dormir debout. « Qu'est-ce que tu reproches à la vie ?» Martin lui répond « Il n'a rien d'intéressant, cette vie. » Et il sort de la pièce. et Denis se recouche. Sa maman éveillée et s'endort. Rêve noir. Se réveille d'un coup. Regarde l'heure, 7 heures.
Ce doit être l'heure que je prépare le café.
Se lève. Se range. Et sort du cellier pour aller à la cuisine. Les jours passent. Il devient de plus en plus indispensable à la famille parce qu'il est efficace. Parce qu'il connaît très bien la maison et les habitudes des gens, il n'y a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Ou si on lui dit, c'est qu'une fois. Sa femme est très satisfaite de lui. Lui est en partie heureux d'avoir retrouvé sa famille. Mais c'est comme dans un rêve. Il est avec eux sans l'être. Parce qu'il est étranger tout en étant lui. Il aimerait comprendre ce qui lui est arrivé. Il se dit,
peut-être que la réincarnation ou que je suis un fantôme.
N'ose pas se poser de questions. Ce qui lui fait mal, c'est que sa famille le traite comme un étranger. Et qu'il voit sa famille faire des mamours à un autre. Sa femme faire des mamours à un autre. Il voit très bien que sa famille se dégrade et il aimerait les aider. Ça le désole. La semaine d'essai est finie. Il lui dit, j'ai bien intention de vous garder, je ne vous mets pas trop cher. Il lui dit,
merci madame, le salaire minimum me suffirait, plus sa chambre bien entendu.
Elle lui dit, et la nourriture?
Bien, je vais en parler à Armand.
Elle le lui demande. Armand lui dit, fais comme tu voudras, ça donne du temps pour te reposer. Elle l'embrasse. Elle lui dit,
merci, tu as un amour. Ce sera mon cadeau d'anniversaire.
Un homme?
Elle sourit et lui dit, et pourquoi pas?
Hein? Elle va le dire à Denis qui est embauché. Dans les papiers, Denis lui donne Pour les papiers, Denis lui donne la carte de la personne qui l'a tué. Pour signer le contrat, il est obligé de mettre ses empreintes sur l'écran. Il met sur sa paume, sans qu'elle le voie, l'empreinte qu'il a prise avec de la mie de pain, en se disant pourvu que le corps n'ait pas été retrouvé, et la vie continue. Il a réussi à sympathiser avec les enfants en leur donnant quelques billets et les aidant à de menus travaux. Le fils Martin le trouve chic parce qu'il n'a rien dit à sa mère au sujet de la drogue. La fille, une nuit, est entrée très tard. Il l'a surprise et n'a rien dit non plus. Et même payer le taxi. Armand, qui était rond comme une bourrique, un soir, Denis l'a aidé à monter dans sa chambre sans être vu par sa femme et l'a aidé à se coucher. Armand lui a été reconnaissant, ça empêchait une scène parce qu'il en avait déjà eu une l'après-midi. Sylvie est très satisfaite de lui, il fait tout comme elle le veut et sans qu'elle lui dise. Elle lui dit un soir:
on dirait que vous avez toujours vécu ici. Vous faites tout comme il faut, comme je le veux.
C'est parce que vous faites les choses comme elles doivent se faire. Elle est heureuse de ce qu'il vient de lui dire. Elle lui dit:
c'est le plus beau compliment que l'on m'ait jamais fait. Merci.
Une nuit, Denis entend quelqu'un entrer. Il se lève pour aller voir à la fenêtre. Il voit que c'est Amélie qui rentre bien tard. Il la regarde sans être vu. Il voit qu'elle a à la main ses chaussures, la mine défaite avec son petit manteau rouge. Et son sac à main noir. Elle est triste. Elle a triste allure, malgré son élégance. Elle a pleuré. Traverse le jardin et va rentrer dans la maison. Denis va se coucher en vitesse. Le lendemain matin, la première chose qu'il fait, une fois que la famille est partie, c'est de faire les chambres. Ce matin, Sylvie est allée faire le marché, il est tout seul. Il commence par faire la chambre de Sylvie. Ouvre les volets. Et fais le lit. Du mal de faire le lit de sa femme, de sentir son odeur mélangée à la transpiration d'Armand, de voir les formes des draps froissés, de trouver des fois des Kleenex tachés. Là, il a la preuve que sa femme est vraiment avec quelqu'un. C'est lui qui devrait être à sa place. Ça lui fait du mal. Et puis en plus du lit, il y a le linge qui traîne, la chemise de nuit. Les sous-vêtements, slip, soutien-gorge, sous-vêtements de lui. Tout ça, c'est dur pour lui. Il se dit qu'il devrait se dévoiler et reprendre sa place. Mais s'il se dévoile, on le prendrait pour un fou. Et ce serait comme pour la première fois. Alors, peut-être que les choses se remettront en place toutes seules. Après avoir fait le lit, dépoussiéré, enlevé le linge sale pour le mettre dans la salle de bain, et donner un coup d'aspirateur, dans la chambre de son fils. Il va dans la chambre de son fils. C'est un véritable cafanamoir. Il range comme il peut. Enlève les choses à terre. fais le lit. Vide les cendriers, prends des canettes de bière, ramasse les revues rock des deux filles. Côte sont tachés, mais plus de seringues, il doit les cacher. Denis soupire et se dit. Il fait son adolescence. Et il sort de la chambre. Il entre dans la chambre de sa fille. Là, il est surpris. Il voit qu'elle est encore au lit. Il s'apprête à sortir, mais il entend comme un râle. Il va. Vous êtes malade? Pas de réponse. Il s'approche du lit. Elle est couchée sur le ventre, légèrement inclinée. Elle râle. Mademoiselle! Pas de réponse. Il éclaire la lampe de chevet, voit qu'elle a la bave sur les lèvres. La bave blanche se penche, la secoue et ne réagit pas. La soulève, elle est toute molle, les yeux blancs. Merde! Elle a dû s'empoisonner. Il la gifle. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Allez, allez, allez. Il court à la salle de bain. Prend un gant et une serviette. Il passe un gant mouillé sur la figure. La tape. Il voit qu'il y a un tube de comprimé Gardénal sur la table de nuit. Elle soulève. Elle est mal. Il faut qu'elle marche. Qu'elle marche. Il la soulève. La maintient debout. La fait marcher. L'emmène jusqu'à la salle de bain. Là, dans la salle de bain, il la met. Dans la baignoire, tout habillé, et lui fait prendre une douche, habillé sur ses vêtements. Elle réagit. Oh! Et elle se fait couper. Il la sort de la baignoire. La frictionne. La maintient sur le rebord de la baignoire. Il tend un verre de pour se laver les dents, où il y a de l'eau dedans, et la fait boire. Ça lui donne envie de vomir. Elle a tout juste le temps de se tourner et de venir dans la baignoire. Une fois que c'est fini, il lui passe le gant de toilette. Elle est pâle, mais réveillée. Elle le regarde. Elle se met à pleurer. Elle pleure comme une madeleine. Il la prend dans ses bras. La caresse. Il est malgré lui heureux d'avoir dans ses bras sa fille. Sa fille à lui. Il lui dit,
calmez-vous, calmez-vous. Elle se blottit tremblante contre lui. Il lui dit, j'aimais quelqu'un qui ne m'aime pas.
Il lui dit, ça arrive, mais c'est la vie. Il faut continuer à vivre.
Elle lui dit, il est marié, je ne le savais même pas.
Vous en êtes sûr?
Oui, j'ai écouté une conversation qu'il a eue avec sa femme. Il ne me l'a même pas dit. Pourtant, ça fait un an qu'on se connaît. Il ne me l'a même pas dit. Il a voulu s'amuser avec moi et rien d'autre. Et puis j'ai appris c'est qu'il avait d'autres maîtresses avec moi.
Il lui dit, quittez-le.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça me fait du mal. Vous pouvez pas comprendre. Je l'aime toujours.
Il lui dit, si, je comprends. Moi aussi. J'ai toujours aimé une personne qui m'a peut-être jamais aimé et qui vit avec un autre. Mais vous voyez, je vis, je ne cherche pas à mourir. À quoi bon mourir pour des gens qui ne vous ont jamais aimé? Vous verrez dans 10 ans, ce sera comme mauvais souvenir tout ça.
Elle lui dit, vous croyez?
Oui.
Elle lui donne, elle lui demande, je vais essayer, aidez-moi à oublier.
Elle se plaque contre lui, s'allonge en voulant le forcer à s'allonger contre elle.
Venez.
Il est pris de terreur et d'un geste brusque, il se retire.
Non.
Elle lui demande, pourquoi?
Parce que il ne faut pas.
Il lui dit, mais si, c'est moi qui vous demande.
Il lui dit, non.
Elle lui dit, vous m'aimez pas?
Il lui dit, pas comme ça.
Elle lui dit, ça m'aurait aidé à oublier, puisque vous voulez que j'oublie.
Il lui dit, oui, mais en aimant une personne qui vous aime.
Elle lui demande, et vous?
J'aime, mais pas comme vous voulez, je ne peux pas. Trouver un jeune homme de votre âge.
Je n'aime pas les jeunes gens de mon âge. Il lui dit, tout d'un coup,
vous êtes bien guéri, vous cherchez à séduire.
Elle lui dit, c'est peut-être par désespoir, je suis tellement seul.
Il lui dit, je suis sûr qu'il y a des tas de jeunes gens qui seraient contents de faire votre connaissance.
Elle lui dit, il me rejette.
Il lui dit, ne jouez pas à la pimbèche et soyez plus simple. Arrêtez de jouer à la femme du monde. Vous trouverez quelqu'un. Ce n'est pas en étant comme ça. Vous avez vu, vous avez eu un échec. il faut. C'est être simple. Autrement, ils vont tous vous laisser tomber. Et puis, êtes-vous sûr de l'avoir aimé, cet homme? Ou avez-vous aimé ce qu'il était, ce qu'il est? Si vous n'avez jamais vraiment aimé pour lui, alors votre corps est libre. Alors ne cherchez pas à vous suicider par dépit. Elle lui dit, c'est terrible ce que vous me dites. J'ai la tête qui tourne, je suis fatiguée. Laissez-moi, avec mon chagrin, il lui dit. Oui, je vais vous laisser. Bonne nuit. Et il va vers la porte. Elle lui dit,
merci.
Il sort de la pièce.
Elle sent moins sa tristesse et même qu'elle a failli mourir pour cet homme. Tout à coup, elle trouve son ami laid, vieux, comme il est. Et puis, elle se souvient de lieux, de choses matérielles et moins de lui. Elle se souvient de lieux luxueux où se sont rencontrés d'objets, de vêtements, de repas, de soirées, de belles voitures. Et elle ne se souvient plus de tout ça, que de lui. Alors, elle se dit, malgré elle, qu'elle regrette le luxe qu'il lui donnait. Parenthèse, ça me rappelle une personne qui me disait que j'étais amoureux de son appartement plus que d'elle. Elle est triste, mais pas de la même chose. Et cette tristesse-là se transforme vite en colère. Et lorsqu'on est en colère, on n'a plus envie de mourir. Elle se dit, il a raison, je ne veux pas mourir pour ce vieil imbécile que je n'aime plus et qui ne m'a jamais aimé. Je ne veux plus être amoureuse et vivre librement. On est trop bête lorsque l'on aime. Et elle se lève et prend une bonne douche. Parce qu'elle veut se sentir bien. Lendemain, lorsqu'elle rentre dans la salle commune pour prendre son petit déjeuner, elle est habillée tout simplement d'une petite robe blanche, pas maquillée, les cheveux pendants. Sa mère la regarde et lui dit, « Tu t'es réveillée en retard ?» Elle va vers sa mère, l'embrasse, s'assoit en face d'elle et lui dit, « Non, je reste comme ça. » Sa mère lui dit, « T'as enfin compris que c'était mieux d'être naturel. » Elle lui dit, « Avec mon vieux, c'est fini. Je ne veux plus ressembler à une vieille bique. » Sa mère lui dit, « Jusqu'à ce que tu retombe amoureuse. Ça, ça ne risque pas. Et puis je veux un jeune homme bien sur tout rapport. Les jours passent, Denis et Amélie restent intimes. Elle lui fait des clins d'œil, lui sourit. Le trouve très amical. Lui reste à sa place, mais lui répond de la même façon. Et un soir, elle vient à la maison et dit qu'elle a rencontré un jeune homme. Il a son âge et est très gentil. Elle l'a rencontré dans la rue. Il est le fils d'un voisin. Elle le trouve très beau. Elle a oublié son premier amour. Les jours passent. Le fils rentre de plus en plus tard. Et dans un état déplorable. Il boit de plus en plus. Une nuit, Denis entend dans la rue une bagarre. Il se met à la fenêtre et voit que c'est le fils qui se bat, qui se fait tabasser par deux hommes. Denis ouvre la fenêtre furieux et leur crie « Laissez-le tranquille !» Un des hommes qui tabasse le fils crie « Nique ta mère !» Denis furieux saute à la fenêtre et court dans la rue. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.